Je sais pas vous, mais dans mon enfance, je me demandais souvent pourquoi j'étais né là, à cette époque, dans ce corps, et pourquoi le monde était dans cet état. En grandissant, je découvrais plus ou moins directement les histoires qui me conditionnaient. Les romances et les drames de famille, les success stories, les faillites, les raisons des migrations ou des métissages, les complicités et les trahisons, les discriminations dont je bénéficiais, et les violences dissimulées. Ma colère ou ma tristesse m'ont poussé à rejeter certains pans de mon éducation. D'abord, par simple contradiction, pour la satisfaction de dire non. En tout cas, j'ai appris à affirmer ma propre voix. En refusant les injonctions qui me semblaient absurdes, j'espérais découvrir la recette du bonheur, et je commençais aussi à rêver d'une révolution contre cette société si injuste et polluante. Souvent, de m'échapper de la vie, tout court. Puis j'ai découvert certains plaisirs toxiques qui me paraissaient jusque-là intolérables et qui m'étaient alors interdits, avec une despé à la sortie du collège ou une clope entre copines émo. J'allais parfois à des manifs dont je comprenais pas encore vraiment les enjeux. Aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, dans un monde qui ne s'est clairement pas amélioré, certaines victoires personnelles ou collectives m'ont permis de m'épanouir, de m'extraire de quelques liens qui me pesaient plus qu'autre chose. Mais je sais aussi, mieux que jamais, combien l'équilibre est difficile, que je reste prise dans des milliers de contradictions d'une humanité sur laquelle toute seule je n'ai vraiment pas de pouvoir. Et il y a quelques mois, j'ai reçu cet email de La Braise, une coopérative d'éducation populaire à Strasbourg, qui me proposait de créer, avec leur soutien, un podcast sur l'émancipation. Sujet vertigineux mais ô combien passionnant, j'ai évidemment accepté cette mission pour récolter des petites et grandes histoires. Je m'appelle Ada Wojtowicz et j'ai le plaisir de vous présenter ici quelques récits d'émancipation. Épisode 0, où les membres de La Braise racontent leur histoire et en quoi la coopérative leur a permis de prendre le contrôle de leur vie.
Je m'appelle Jérémy. J'ai 36 ans, à la base je suis breton, exilé en Alsace. J'ai grandi à Rennes, dans la ZUP de Rennes. On est trois enfants, je suis le petit dernier, et mes parents étaient issus de la campagne, leurs parents étaient paysans, et mon père était ouvrier, et ma mère était secrétaire.
Hier soir on m'a dit que je faisais 42 ans, mais en fait j'en ai 37. Je suis originaire d'une famille bourgeoise. Ma famille est en partie alsacienne, en partie pas. Mais ma famille est originaire d'un peu partout, de La Rochelle, d'un peu partout en France. Puisque je suis archi blanche. Alors je suis complètement rouge quand tu me vois, mais je suis on ne peut plus blanche sociologiquement. Ah oui, je suis une meuf. Ouais, je suis une meuf. J'ai pas toujours eu un rapport facile avec ma féminité, mais je crois que je me suis toujours mise là, quand même.
Je m'appelle Victor, je suis le deuxième enfant d'une famille où on est cinq enfants. J'ai grandi dans les Vosges, à Saint-Dié, je suis fils de prof. Mes deux parents sont enseignants, étaient enseignants, sont retraités maintenant. Bon voilà, et puis moi je suis blanc, hétéro. Un mec 6, je pense que je coche énormément de cases de privilèges.
C'est assez compliqué pour moi, parce que plus je me renseigne sur ma famille et sur ma bourgeoisie, plus je la trouve crasse-pouille. C'est un joli mot pour dire que c'est assez difficile pour moi de pas être dans un rapport juste de culpabilité. Je crois que j'ai été sauvée par François Bégodeau en me disant que je pouvais avoir des origines et un mode de vie qui me rapproche de la bourgeoisie, mais ne pas l'être complètement en n'en convoyant pas l'idéologie. Et du coup, je me dis que de lutter contre la dimension idéologique de la bourgeoisie fait que je peux à peu près m'en sortir sans être dans un bain de culpabilité. Et je pense que le travail sur le racisme doit être à peu près le même. Mais en tout cas, j'ai un rapport avec ma famille qui est pas facile parce que de plus en plus, je suis dans une forme de traîtrise de classe et du coup, je suis un peu en difficulté à ce niveau-là.
Et puis, je suis issu d'une famille où, au moins du côté de mon père, c'est une famille bourgeoise en fait. Et bien que je sois pas baptisé et que mes parents m'ont toujours dit que Dieu n'existait pas, dans la famille de mon père, il y avait beaucoup de pasteurs. Et donc je crois que dans mon éducation et du coup peut-être dans ma personnalité, il y a quelque chose de protestant. En tout cas, on me l'a déjà dit, même si je suis pas sûr de bien comprendre ce dont il s'agit.
J'ai une éducation catholique. Avec des parents pratiquants et j'ai été, je crois, assez fortement impacté par ce que la religion catholique peut charrier, quoi, de don de soi, de charité, de faut toujours penser aux plus pauvres, aux précaires, à ceux qui ont le moins, quoi. Je pense que ça a beaucoup joué aussi sur la représentation que j'avais de le centre social, c'est l'espace où on est là avec les plus pauvres, quoi. Et je le dis volontairement en disant les plus pauvres, parce que je pense qu'il y avait un truc un peu peut-être caricatural dans mon esprit à l'époque, quoi, qui était « je veux aider ».
J'étais deuxième d'une bande de frères et sœurs de cinq. J'ai grandi dans le collectif, et mes parents enseignants, ils étaient aussi animateurs, animatrices de colo plus jeunes, et formateurs, formatrices BAFA. On se faisait des réunions de famille, on décidait collectivement, on faisait des débats un peu philo sur des sujets, on regardait des films, on en parlait. Ils pensaient à l'aménagement de la maison pour qu'on puisse de manière le plus autonome possible faire un peu tout ce qu'on veut sans avoir forcément besoin de passer par eux et tout. Et je crois qu'ils faisaient ça de manière consciente, réfléchie et travaillée pour qu'on puisse évoluer en autonomie et grandir comme on voulait, etc., etc. Et puis aussi parce qu'ils voulaient qu'on leur foute la paix, parce qu'il y avait plein d'enfants et ils ne pouvaient pas s'occuper tout le temps de chacun et de chacune à fond.
S'il y a bien un truc dont j'ai envie de me débarrasser, c'est ce truc de « je voudrais être comme » ou « il faut être comme ». Et du coup, c'est que tu peux pas être toi-même, il faut être comme. Tu vois, le snob, c'est comme les nobles, quoi. Parce que j'ai des trucs qui me viennent du collège où j'étais hyper populaire et... J'en discutais avec une copine qui, elle, a hyper morflé parce qu'elle était beaucoup plus marginale. Enfin, tu vois, elle s'affirmait beaucoup plus dans son identité. Et elle a hyper souffert, et notamment à cause de moi, qui était populaire et qui était une espèce de leaduse, une clique de mecs. Mais, et aujourd'hui, tu vois, alors ce qui est magique, c'est que je suis quand même encore copine avec elle et que je réfléchis à combien... Le fait d'avoir besoin de me conformer pour pouvoir être populaire et rester populaire a nuit au fait que je sois capable de m'affirmer.
Après le bac, un bac littéraire, je me signifiais que j'allais plutôt aller vers du travail social ou socioculturel. J'étais pas encore trop sûr de moi. Donc j'ai commencé une fac de socio en faisant de l'animation en parallèle pendant un an. L'année d'après, j'ai travaillé bénévolement dans une asso qui faisait de l'accompagnement social pour des personnes étrangères.
Un accueil pour ceux dont personne ne veut plus. Un abri pour ceux qui galèrent dans la rue. Un regard neuf sur la société. Un regard neuf sur la sexualité.
Je me suis construit professionnellement en rencontrant le milieu associatif, justement, en passant mon BAFA à 17 ans. Et ça, c'est un truc, j'ai même pas vraiment décidé de le faire. C'est encore une fois, ça vient de ma famille. Mes parents nous ont dit, pour vous aider au démarrage dans votre vie, on vous paye à tous, si vous le voulez, le permis de conduire et le BAFA. Et du coup, moi, je suis allé faire mon BAFA à 17 ans parce que mes parents me disaient « Vas-y, ça va être cool ». Et j'ai fait ce stage BAFA, je crois que j'ai adoré. Je crois que je me suis vraiment projeté dans l'exercice des fonctions d'animateur. Et du coup, j'avais pas encore fini mon BAFA, je crois. Le jour où j'ai eu 18 ans, j'ai créé une association avec des copains. Et le but, c'était de faire ce qu'on voulait, en fait. On a fait plein de trucs avec cette association. Je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours été au moins adhérent à une association, et puis en tout cas aussi membre actif et à monter des projets dans le cadre d'associations, des projets collectifs, voilà, alors plutôt dans le milieu ludique, le milieu un peu culturel ou voilà, c'était ça.
Le communisme pour concert gratuit, atelier bio animé par des hippies, des anciens toxicos animent des débats, des sorties de font du bénévolat, des cours de judo gratuits dans ton quartier, dans ton hotman, le dernier labillier.
J'ai fait des études de sociologie, mais j'ai continué en anthropologie, j'ai continué sur les AMAP. Avec toute une analyse des échanges, qu'est-ce qui fait le caractère alternatif des échanges dans une AMAP et tout ça. Et même si j'avais assez cartonné, en fait, j'en avais marre de ne pas pouvoir agir, d'être vraiment dans de la recherche. Et donc je suis partie faire un master professionnel en ingénierie de projet dans l'économie sociale et solidaire. Donc wow. Ouais, visuellement, c'est bien quand il y a une petite dent qui brille à la fin, c'est un truc genre... Ting. Et après, j'ai bossé pour... on a monté du coup un atelier vélo dans cet atelier vélo j'avais fait une formation avec une coopérative d'éducation populaire et j'avais adoré. Après j'en ai refait plusieurs, j'ai fait intervenir des scopes dans ma structure et tout, et je m'étais dit mais quand je serai grande j'en créerai une à Strasbourg parce qu'il n'y en a pas dans le Grand Est.
Alors que je me rapprochais d'un désir de militer politiquement, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu le désir à un moment de physiquement m'engager, c'est-à-dire de ne pas rester devant mon ordinateur ou dans des bouquins, qui ont été deux moyens de me politiser, mais de rencontrer des gens, d'agir, peut-être de me sentir moins seul éventuellement dans des idées politiques. Et j'ai commencé à me rendre à une réunion publique, puis à la réunion du collectif libertaire local à Rennes, enfin, qui agissait dans le cadre de la Fédération anarchiste, sans pour autant être très clair avec mes parents, tu vois, sur où j'allais, etc. Et je sais qu'une fois, j'en profite pour récupérer plein de posters de la Fédération anarchiste. Et le soir même, je tapisse les murs de ma chambre, parce que j'habitais encore chez mes parents, je tapisse mes murs de posters de la Fédération anarchiste. Avec un peu de recul, je me demande s'il n'y avait pas quelque chose qui était de l'ordre de provoquer quelque chose. Parce que la réaction de mes parents, et surtout de ma mère, quand elle a vu cette chambre maculée de propagande anarchiste, a été un peu de s'inquiéter, quoi. Puisqu'étant plutôt de gauche, modérée, pas du tout radicale. Et ça a provoqué, certes, des discussions, mais j'ai le sentiment que moi, ça m'a un peu décalé de ma famille politiquement. En fait, j'étais le seul qui venait se positionner ailleurs politiquement que le reste de ma famille. Et avec un peu de recul... déterminés comme nous sommes, tu vois, je me demande à quel point ce qui a joué, c'est quelque part les idées que je me suis forgées, à quel point c'est la nécessité de trouver ma place, quoi. Mais j'ai le sentiment que moi, ça m'a un peu décalé de ma famille politiquement.
Des lieux pour rencontrer, des lieux pour discuter, des lieux pour échanger, des lieux pour partager.
J'ai continué, je suis allé faire de la formation BAFA, je suis devenu responsable d'animation dans une association d'animation scientifique, et globalement je souffrais de solitude parce que je devais à la fois vendre l'activité, développer vraiment de l'activité, vendre des animations en fait à des clients, et des clients c'est des collectivités, des écoles, ce genre de trucs. Moi je devais motiver des bénévoles à aller faire des animations que je vendais à des gens. Et le but du jeu, c'était de payer mon salaire. Et donc, c'était un peu compliqué de motiver des bénévoles à faire des activités qu'ils ne voulaient pas faire eux à la base. mais de faire les activités que j'avais décidé qu'ils devaient faire parce que je les vendais. Et puis en plus, au moment où je suis arrivé, c'était la guerre dans cette association entre justement des bénévoles historiques qui disaient on est en train de perdre notre âme, on fait des trucs qu'on n'avait pas décidé de faire avec cette association, et d'autres bénévoles qui avaient le pouvoir, le président entre autres, qui ne comprenaient pas le problème.
Du coup, déjà, il y a eu un premier décalage de « en fait, j'ai pas le sentiment que ce à quoi on me forme, c'est pour agir avec les gens ». On me préparait à ce que mon métier, ça soit de faire des projets qui n'avaient pas spécialement pour vocation à venir regarder le monde dans lequel on est, et puis, in fine, à avoir du désir et des moyens pour agir dessus, quoi. C'est-à-dire agir sur ses conditions de vie, les rendre meilleures, revendiquer des choses, gagner des combats, voilà. Et en fait, ce décalage-là, j'ai pas mis ces mots dessus à l'époque, quoi. Parce que j'étais pris dans un espèce de trouble qui était, mais je crois que j'ai le droit de m'autoriser à penser que mon métier c'est ça, mais tout me fait dire que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et je pense que c'était le trouble qui existe entre l'éducation populaire en tant que mouvement historique et l'éducation populaire en tant que secteur d'activité, quoi. Qui est presque l'animation socioculturelle, l'éducation populaire, c'est un secteur d'activité en fait, quoi. Et j'avais pas compris ça à l'époque.
En fait, c'est forcément la merde, parce que t'as juste pas les moyens, t'as pas le temps, t'as pas toujours les compétences, on te permet pas de les avoir, t'as des injonctions contradictoires parfois. Moi, c'était le cas entre ma direction dans l'association et puis le ministère dont on dépendait, Jeunesse et Sport. Ça marchait pas bien, ce qu'on nous demandait, ensemble. Et puis la dissonance cognitive, le fait d'aspirer à faire certaines choses, parce que nous c'était pas juste un job alimentaire, en tout cas moi c'était pas juste un job alimentaire où j'avais pas, je pouvais pas me dire bon bah il y a ma vie à côté puis je fais ça pendant quelques heures dans la journée, enfin j'avais besoin que ça serve à quelque chose, j'avais envie, c'était une forme de passion aussi, et il y a un jour quand même où je me rappelle avoir souhaité faire un accident de voiture pour avoir une excuse pour pas... aller au travail pendant quelques semaines ou quelques mois.
Il a fallu notamment une conférence gesticulée de Franck Lepage, l'éducation populaire, madame, ils n'en ont pas voulu, pour que ça vienne mettre des mots sur des choses que je ressentais en partie, que j'avais éprouvées en partie. Avec Victor, on se rencontre le temps d'un emploi, une année, qu'on se partage tout ça en fait, nos dissonances, nos échecs, nos analyses politiques, nos désirs. Et puis qu'on se dise, mais en fait, soit on continue d'investir des espaces où on est toujours mal, des espaces des emplois quand on est mal, soit on tente de créer un espace où on s'éviterait une bonne partie de ces choses-là. Et donc la braise est devenue presque une nécessité psychologique de quitter un environnement professionnel hostile pour ce que je me signifiais de mon métier et des désirs que j'avais.
Mais il y a eu une période transitoire. Quand je suis parti de cette association, Jérémy, il y est resté un an ou deux. Et c'est une période où j'ai bossé à mon compte. J'ai pas voulu retourner dans l'emploi associatif. Donc j'étais auto-entrepreneur. Enfin, je faisais ce que je faisais avant en tant que salarié d'association. Et je faisais moi-même avec mon réseau professionnel local. Ça m'a un peu permis de voir que ça marchait aussi économiquement, qu'il y avait moyen, c'était pas juste un doux rêve de dire tiens on va pouvoir vivre en faisant une coopérative ou en vendant des formations de notre côté. Et donc quand on a créé nos premières formations et qu'on s'est dit maintenant en fait vu que c'est nous nos propres patrons, on peut dire et faire ce qu'on veut, on a pris beaucoup de plaisir, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir enfin tenir les propos que avant je tenais parfois aussi, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir les assumer, ou je les dis en douce, ou je les dis qu'à demi-mot, et là on pouvait vraiment dire la méthodologie de projet, on pense que c'est nul, ou en tout cas que ça génère des situations problématiques, et notamment ça rend malheureux les gens qui la mettent en œuvre. Voilà. Alors qu'avant, on ne pouvait pas du tout dire des choses comme ça.
Je suis arrivée un an après. Quand je suis rentrée de voyage à vélo, j'ai été les voir et j'ai dit « Ouais, les gars, vous avez fait ce que je rêvais de faire. Vas-y, on fait connaissance, on s'en parle. » Voilà, je leur ai un peu sauté dessus en mode « Non, mais vous ne pouvez pas faire ça sans moi. »
Pour moi, la braise, c'est un accélérateur incroyable. J'ai jamais eu un espace aussi propice à me sentir en condition de m'émanciper de choses, et le sentiment de rentrer en processus d'émancipation, autant sur des choses qui étaient déjà en cours dans ma vie, ce que j'évoquais autour de mon éducation, et ça vient me mettre en travail sur d'autres sujets, sur par exemple l'amour, les relations, le couple.
Moi, là où j'ai l'impression de me sortir de carcan, ça va être plutôt dans ce qui me semble être assigné comme des rôles, notamment de femmes, et des normes de couple, en fait. Moi, c'est vraiment là que ça se joue, je crois. Des normes de famille, des... Ouais, faut faire des enfants... Il y a un bouquin qui fait partie vraiment de mon parcours d'émancipation là-dessus, c'est le Sorcière de Mona Chollet, qui dit que les femmes ont... Enfin, qu'il y a trois interdictions héritées des sorcières, que les femmes n'ont pas le droit d'être indépendantes, qu'elles n'ont pas le droit de ne pas avoir d'enfants et qu'elles n'ont pas le droit d'être vieilles. Et moi, j'ai l'impression d'être ça. Alors vieille, je le deviens tranquillement, mais... Même si depuis hier j'ai 42 ans. Mais il y a eu tout un enchaînement comme ça, genre j'ai lu le bouquin, je me suis fait poser un stérilet, je me suis coupé les cheveux. Et j'ai eu vraiment l'impression de poser un acte. En fait, avant j'avais des contraceptions autres. Et là j'étais là, genre ok, je le pose quoi. En fait, là les prochaines années, alors c'est réversible, hein, et je veux jamais dire jamais, on sait pas ce qui peut se passer. Mais tu vois, tout mon entourage fait des enfants et du coup moi j'ai l'impression d'avoir posé l'acte de bah là pas moi quoi.
Ces gens viennent avec des sujets et moi ça me nourrit incroyablement quoi. Parce qu'elles viennent me faire apparaître, elles viennent me dévoiler des choses qui étaient forcément de l'ordre de l'invisible pour moi, de l'inconnu, parce que juste on ne peut pas tout savoir dans la vie, ou juste je ne suis pas à ta place. Je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas savoir. Et donc viens me raconter et mettons des mots sur ce que tu vis, quoi. Et si on prend juste ce sujet du genre, évidemment, il n'y a pas qu'une femme qui est venue une fois pour raconter des choses autour de sa condition de femme. Il y en a plusieurs qui sont venues et à chaque fois, ça vient me faire regarder le sujet de plein de manières, quoi. Et il a suffi qu'une des femmes vienne raconter, par exemple, en quoi le fait de devenir mère, la société l'avait ramenée à sa condition de femme. À partir du moment où elle était devenue mère, elle est venue raconter ce processus-là, sa prise de conscience et l'analyse qu'elle en faisait. Et ben, c'est venu me décaler sur ma position de père. Moi qui suis devenu papa après, ça m'a fait décider que je ne ferais pas partie des hommes qui, une fois devenus père, continuent à faire plein de déplacements loin dans un cadre professionnel, quoi.
À l'intérieur de ce qui se passe dans la coopérative, dans la manière dont on décide de s'organiser, dans la manière dont on décide de se payer, dans la manière dont on décide d'organiser les tâches, des choses comme ça. Il y a d'autres sujets qui sont mis au travail, qui sont émancipateurs. Et là, par exemple, ça me vient parce que c'est un sujet chaud en ce moment, on y travaille, c'est le rapport à l'argent et au salaire.
Et bizarrement, il me passionne plus que celui sur le genre. Peut-être que je suis pas du tout à la même place. J'ai beaucoup d'appétit et de curiosité sur les questions, sur comment on va pouvoir vivre bien nos inégalités de revenus. Et quand je dis vivre bien, c'est à la fois avoir des conditions de vie et de rémunération qui nous sied, et de voir ce que ça nous fait, en fait, de mettre au travail vraiment ces privilèges. En fait, si on s'y attaque à ces questions d'égalité, d'inégalité de conditions de vie, enfin, tu vois, de besoins, de salaire.
On était parti au départ avec l'idée qu'on allait tous se payer la même chose. Et le jour où on peut s'augmenter, on s'augmente tous, tac, comme ça. Et quelle que soit la nature des tâches qu'on exécute, ou même si quelqu'un, pendant une période, ramène plus de thunes que d'autres, c'est pas pour ça que cette personne va être mieux payée, quoi. Et puis, est arrivée la question du temps de travail. À la naissance du bébé de Jérémy, Jérémy a dit un mercredi sur deux, je ne vais pas pouvoir travailler, il faut que je m'occupe des enfants. Bon, alors du coup, on réduit son temps de travail. Est-ce qu'il faut réduire sa rémunération? Parce que du coup, il travaille moins. En l'occurrence, il faisait un 90%. Donc est-ce qu'on retire 10%? On a dit non. Bon. Et puis après, mon bébé est venu, puis on s'est tous et toutes redit à ce moment-là que ça nous allait de travailler moins, en fait. Donc on s'est tous mis à 80%, on se maintenant nos salaires à 100%. Et donc déjà, on a commencé à dissocier le temps de travail et le niveau de rémunération. Et là, on est en train de revenir même sur l'idée de rémunération égale.
Pour décider de comment on se paye, combien on se paye, on vient regarder notre rapport à l'argent. Donc on vient regarder de quelle classe sociale on est issu, on vient voir quels étaient nos loisirs, quels étaient nos accès à la culture, etc.
Parce qu'on organise le travail en fonction de la vie qu'on veut avoir, quoi. Et c'est pas, on va essayer d'avoir la vie qu'on arrive à avoir à côté de notre travail. Je suis tellement heureux de ne pas être coincé dans une vie où il faut que je choisisse entre les injonctions de mon monde professionnel et mes aspirations personnelles d'être des fois chez moi avec un bébé que j'adore voir grandir.
Du coup, je pense que c'est émancipatoire pour nous. Je pense aussi qu'on travaille beaucoup de sujets, notamment de rapports, de domination, qui nous permettent de nous décaler, nous. Enfin, par exemple, les questions de racisme, alors on les a pas encore beaucoup travaillé, mais enfin, il y a plein de sujets comme ça qu'on vient aborder dans le cadre de la coopérative et qui viennent nous faire bouger, nous, à fond, quoi. Que ce soit pour s'émanciper, pour se sentir plus libre, ou justement pour mettre au travail nos privilèges selon les endroits où on est. Et après, dans ce qu'on provoque avec les gens, je pense que c'est vraiment de faire exister la notion de rapports sociaux, de structurel, dans ce que les personnes vivent, les personnes et les collectifs. De dire, mais en fait, c'est pas juste ce qui t'arrive, c'est la société qui fonctionne comme ça. Et du coup, je pense que ça peut permettre à un moment, un peu comme un podcast, de se dire, bah, en fait, c'est pas moi et mes petites emmerdes, c'est il y a un problème sociétal et je m'inscris là-dedans.
Je me dis aussi, si moi, en vivant des formations et avec les gens et en me disant ouais, c'est fou ce que ça me fait bouger, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne les fasse pas bouger aussi, quoi. Et pas mal de récits viennent confirmer ce truc-là. Et donc, en ce sens, à des endroits, on participe à poser des conditions qui seraient davantage propices à l'émancipation, en autorisant le fait de dire il y a des normes qui sont très problématiques, qui sont à détruire, qui sont à transformer.
L'émancipation, c'est, même si ce processus il a une dimension collective, l'acte émancipateur, il est quand même personnel. C'est quand même une personne qui va au moment de décider, nous. Et alors, déjà, il est dur à provoquer. Et même, des fois, je me demande qui on est pour souhaiter provoquer des actes émancipateurs. Quelle grille de lecture nous-mêmes on plaque aussi sur les gens quand on fait ça, et puis, pour qui on se prend. Et puis bon... ouais, c'est pas toujours le cas qu'il y a des avant et des après.
Par exemple, une entreprise qui est un cadre hyper contraint, quoi. C'est-à-dire, on peut poser des analyses sur ce qu'ils vivent, sur des normes, sur des injonctions qu'ils vont vivre. Néanmoins, pour pouvoir agir dessus, encore faut-il avoir le pouvoir de bouger l'organisation, la forme de l'organisation, en fait, pour changer les conditions de travail. Et ça, c'est pas évident, voire rare, quoi.
Il y a mille limites. La première qui me vient, c'est quand les gens prennent 2 jours, on peut les faire réfléchir et les faire bouger. N'empêche que quand on repart, on sait qu'ils se refont happer par leur réalité. Leur réalité qui est du burn-out, du surtravail... des tensions entre collègues, l'absence de communication, de la hiérarchie et surtout de la méthodologie de projet où des financeurs leur imposent des rythmes complètement dingues.
Je rêverais que tout le monde puisse décider comme nous de ses conditions d'emploi. Je ne dis pas que les conditions qu'on a décidées, c'est ce qu'il faudrait que les gens vivent, c'est juste d'accéder au pouvoir de décider de ses conditions d'emploi. Ça, mais je le désire tellement pour tout le monde.
Propose un petite histoire, grande histoire.
L'idée, c'est de se fabriquer une frise au fil de l'après-midi, qu'on fera démarrer à la date de naissance la plus ancienne parmi nous. La petite histoire, c'est celle où il y a une probabilité vraiment infime qu'elle soit commune. C'est-à-dire que ça va être l'histoire de ma grand-mère, ça va être l'histoire de mon prof de maths de 6e, ça va être l'histoire de mon boulot la semaine dernière. Il y a peu de chances que ce soit la même que la vôtre. La grande histoire, c'est toujours le récit du moment où ça s'est passé pour nous, mais c'est en lien avec des éléments qui peuvent faire partie de notre grande histoire à tous et à toutes. Ça peut être la chute du mur, on en parlait tout à l'heure. Si la perestroïka a en fait eu un impact et qu'on se souvient du jour où, voilà, la chute du mur. Mais la grande histoire, ça peut aussi être un film en lien avec des choses qu'on a vécues nous aussi.
En janvier 2022, je pars au Belize, un pays d'Amérique centrale, pour rencontrer pour la première fois physiquement, corporellement, ma mère biologique, que j'ai retrouvée 2 ans auparavant, mais avec qui on s'est jamais rencontré en vrai. Et du coup, en fait, je fais un voyage super long, parce que je prends un vol économique, et que du coup, les vols économiques, pour partir un peu à l'autre bout du monde, tu passes des escales de 14 heures, dans les aéroports, etc. Donc je fais un voyage super long et puis j'arrive là-bas et on est au moment où c'est un peu la je sais plus combientième de vague de Covid et du coup ma mère biologique est très inquiète de ça et en fait on sort quasiment pas. Je passe presque 3 semaines là-bas et on reste à la maison. J'ai un peu une vie de monastère. Je me lève le matin, je petit déjeune, elle cuisine énormément pour moi à chaque fois. Et voilà, quoi, on reste à la maison, on parle, du coup, forcément, on prend le temps de se rencontrer. Elle me raconte plein d'histoires, etc. Et voilà. Et à des moments, je m'ennuie un peu, mais je prends aussi beaucoup le temps de lire, en fait, pendant ce voyage sur place, du coup, dans une maison. Et je lis Anna Kaona, l'insurgée des Caraïbes, en fait, qui est l'histoire de l'Haïti, en fait, de l'île d'Haïti. Et là, je découvre des trucs vraiment qui m'ont marqué par rapport à 1492, cette fameuse date. En fait, déjà, je découvre que moi, dans mon imaginaire, je m'étais toujours imaginé que Christophe Colomb, il débarquait grosso modo New York, tu vois, enfin, genre vraiment la côte de des États-Unis, quoi. Donc là, je découvre que non, pas du tout. Je m'étais imaginé des trucs parce qu'en fait, le premier endroit qu'il découvre, c'est Haïti, cette petite île. Et je découvre aussi, du coup, que en fait, 1492, c'est pas du tout la découverte du Nouveau Monde, parce que en fait, il semblerait qu'il y ait des traces un peu historiques pour dire que il y avait déjà eu plein de passages, des Vikings avaient déjà découvert ces endroits-là, etc. Il y a eu sûrement déjà des échanges économiques, etc. Mais voilà, quoi, en gros, ils passaient, ils repartaient chez eux et tout. Et là, je découvre que 1492, on m'a toujours appris à l'école que c'est découverte du Nouveau Monde. Mais en fait, non, c'est pas la découverte du Nouveau Monde, c'est le début de la colonisation, en fait, 1492. Voilà.
J'avais 1 ou 2 ans. Et je me souviens le jour où je suis montée sur la grande échelle du cabinet de kinésithérapie de ma grand-mère. Et je suis super fière de ça, parce que les petites filles, elles jouent à la poupée, jouent à la dinette. Ben non, moi, je monte à la grande échelle du cabinet de ma grand-mère. Voilà. Donc je sors de l'image, de la case, de la petite fille.
C'est une famille de résistants, en fait. La famille de ma grand-mère, son père et tout. Et d'une part, enfin, c'est une forte femme, enfin, forte, je trouve. Et en plus, elle était dans la première promotion de kiné de France, en fait. Ça a été créé, cette formation, dans les années 50, après-guerre, quoi.
Du coup, comme je m'amusais super bien dans le cabinet de kinésithérapie de ma grand-mère, et ben, on a voulu m'emmener à l'école. Et j'ai dit, je ne veux pas aller à l'école. Et donc, je ne suis pas allée à l'école. Parce qu'on m'emmenait à l'école, J'y restais, je ressortais de la pièce, je prenais ma veste et j'ai dit on rentre. Bon bah on rentre à la maison. Donc tout le monde a essayé de m'emmener à l'école et je voulais jamais rester à l'école.
Ouais, c'est 99. Alors moi en 98-99 je cherchais du travail. Et c'est par rapport à la grande histoire parce que je suis la génération des emplois jeunes. Et ce dispositif moi m'a complètement ouvert la voie au monde du travail. Et j'ai réussi à trouver du travail. J'étais tellement dans les critères. J'avais 20 ans, 21 ans à l'époque. Enfin, voilà, j'avais tous les critères pour l'emploi jeune. J'avais le choix en plein de jobs, en fait. Et ça m'a permis de choisir le travail que je voulais, de m'installer en Alsace, grâce au dispositif emploi jeune. Comme quoi, le dispositif de gauche, c'est vachement bien.
Il va falloir qu'on définisse dispositif de gauche.
Allez, moi je vous raconte une grande histoire. En 2010, c'est la Vélorution universelle à Paris. Et je sais pas si vous connaissez le principe de la Vélorution. Non, 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 il y a eu plusieurs Vélorutions universelles un peu partout dans le monde, mais là c'était à Paris.
D'accord,
j'y ai été.
C'est à Paris, quoi.
Ça a même été deux fois à Paris. En 2011 aussi, je crois. Et donc, une Vélorution, c'est le principe de la masse critique, c'est d'avoir suffisamment d'éléments, c'est un principe de chimie, il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments pour que ça fasse basculer quelque chose, quoi. Mmh. Et donc, une masse critique, c'est suffisamment de. La masse critique, c'est le principe de chimie, et. Une vélorution, c'est une masse critique de vélo, donc il y a suffisamment de vélos sur l'espace public pour que ce soit eux qui occupent l'espace. Et donc, Vélorution universelle à Paris, on a pris les Champs-Élysées, et on les remplissait pas vraiment, mais on avait une bonne moitié de Champs-Élysées, et puis on a fait le tour de l'Arc de Triomphe pendant un moment, et c'était chouette. L'année d'après, à Toulouse, on a pris une bretelle d'autoroute, c'était aussi un grand moment. En tout cas, c'est masse critique. Elles m'ont alors, fait me dire qu'à plein on arrive à faire bouger des choses, le principe de masse critique ça marche, et je crois que même maintenant quand je suis seule sur mon vélo c'est comme si je m'élargissais au maximum les omoplates pour essayer de comme si j'allais faire la masse critique toute seule, en tout cas de l'avoir expérimenté à plein, ça m'a renforcée pour prendre de la place sur l'espace public et prendre la place des bagnoles, quoi. Voilà.
Du coup, une Vélorution, c'est pas forcément déclaré comme. On déclare pas la manif, quoi.
C'est comme toute manif, quoi. T'as des organisateurs qui la déclarent et d'autres qui déclarent pas. Puis t'as des. Comment on appelle ça, des cortèges. Tu sais, tu déclares un itinéraire.
Ah oui.
Puis tu le respectes ou pas. Je doute que la mairie de Toulouse ou la préfecture ait accordé le fait qu'on monte sur l'autoroute.
Ou même les changes.
97. J'ai un petit garçon qui a 6 ans. Je vis avec sa maman. Nous habitons à côté de Toulouse, enfin entre Toulouse et l'Ariège. À l'époque, je retape une maison, tout ça. Et on regarde ce que font les enfants. Donc, il doit être au équivalent CP ou grande section maternelle. On va voir un peu ce qu'ils font dans la classe, et là, horreur. Ils décryptent les programmes télé. Ils apprennent à lire sur les programmes télé. Alors là, on n'était pas très bien avec la mère. Et on s'est dit, non, il faut qu'on trouve autre chose, là, c'est scolarité, c'est pas possible. Et on décide on trouve une école, l'école Waldorf, en Ariège, plein de campagnes, où il y a ce qu'on appelle un jardin d'enfants, donc des enfants entre 4 et 7 ans qui se retrouvent avec une jardinière et puis des classes aussi qui suivent, donc il y a je ne sais plus combien, peut-être 40-50 élèves, et on tombe amoureux de cette école et de la pédagogie, on inscrit notre enfant, et suite à ça, moi je fais une formation liée à la pédagogie Steiner, mais aussi, c'est quoi Rudolf Steiner, en fait, je découvre. Et je passe 9 mois dans ce qu'on appelle un séminaire, dans un foyer où 25 personnes pendant une année, enfin 9 mois, découvrent c'est quoi les enseignements de Rudolf Steiner. Et alors là, ça a transformé ma vie. sur c'est qu'est-ce qui est possible de faire dans le monde aujourd'hui de manière alternative et pas juste suivre un modèle, même si on suit un peu le modèle de Rio Chanier, mais pas suivre le modèle dominant, on va dire. Voilà, 97.
Ouais, du coup, 2017. En 2017, j'ai découvert l'existence d'écoles démocratiques où les enfants sont libres d'apprendre ce qui les intéresse, ce qui les anime profondément. C'était une révélation pour moi. Ça, l'émancipation pour moi, c'est de sortir du système classique, en fait, de m'extirper du système classique conventionnel de l'éducation. Et je pense que c'est fondamental dans ma vie, en tout cas. Enfin, dans la vie d'autres personnes, je pense que ce serait aussi fondamental d'aller ailleurs qu'à l'école publique classique ou l'école privée classique. Et du coup, en 2017, il y avait aussi la foire Ecobio à Colmar, en mai 2017. Et j'ai découvert le sens des émotions aussi, et le sens profond des émotions, et qu'est-ce que ça, l'importance que ça a dans nos vies, en fait, d'humains. Enfin, même des animaux aussi, parce qu'ils ressentent aussi des émotions. Voilà. Et c'est sortir des conventions de il faut taire ses émotions, il faut toujours être sage, il faut jamais être en colère, il faut jamais pleurer, enfin voilà.
En 2021, je commande enfin Portrait du colonialiste de Jérémy Piola. Portrait du colonialiste, l'effet boomerang de sa violence et de ses destructions. Et ce livre, il me chamboule complètement. Dans le sens de chambouler, c'est surtout, il me fait du bien, en fait. Le truc que je retire vraiment de ce livre, lui, il propose, en fait, Jérémy, de changer un peu de perspective et de, au lieu de voir la blanchité, et quand il parle de blanchité, enfin genre la culture occidentale, au lieu de la voir juste comme un ensemble de privilèges, il propose de regarder ça comme aussi un ensemble de vide et de manque. Et en fait, Jérémy Piola, c'est un ancien... il a été danseur professionnel pendant une bonne paire d'années. Du coup, la question du corps, en fait, elle est hyper importante dans son livre. Et pour moi, c'est un grand soulagement, en fait, de lire son livre et de, enfin, effectivement, ajouter la question des vides et des manques et des traumas, en fait, à l'histoire de nos corps d'occidentaux. Voilà.
Alors, je vais mettre une femme dans la grande histoire. Je me souviens du jour où j'étais voir un spectacle de danse à Pôle Sud. Ça devait être en 2019 ou 2020. Ah non, 2020, il n'y avait plus de spectacle. 2018-2019. C'était un spectacle de danse où, dès le début, j'ai aimé parce que les corps qui dansaient étaient assez variés. Il y avait un mec très très long, très grand, comme ça. Il y avait un homme gros, il y avait une femme un peu grosse et une autre femme pas grosse. Enfin, en tout cas, il y avait plein de corps qui dansaient et je trouvais que ça changeait des petits rats de l'opéra comme ça en général. J'ai beaucoup aimé le spectacle, enfin, ça m'a conquis à plein d'endroits. Et la scène finale, c'était ces quatre ou peut-être cinq corps en slip sous une douche de lumière comme ça. Vraiment, une lumière qui arrivait du dessus comme ça. Donc on voyait tous les reliefs de leur corps avec des ombres hyper fortes. C'était vraiment, on voyait ces corps, c'était juste des corps. Et ils pliaient comme ça une jambe après l'autre. Donc ça les faisait juste bouger un tout petit peu, très lentement. Et pendant 4 minutes 34, ou je sais pas combien de temps dure cette chanson, de Gloria Gaynor, qui dit « I am what I am ». Et j'ai écouté les paroles de cette chanson qui dit « Je suis ce que je suis » et ça vous plaira pas, peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est du bruit, moi je trouve que je fais un super son avec mes percussions. Elle dit « Bah voilà, on n'a qu'une vie et tant qu'on peut pas dire haut et fort « Je suis ce que je suis », bah ça vaut pas le coup. » Et je suis restée complètement bloquée là-dessus et après, pendant quelques mois, j'écoutais cette chanson tous les jours et je la chantais comme ça et j'ai réussi, c'est ce que j'appelle la Gloria Gaynorothérapie, à installer une petite voix dans ma tête
qui se déclenche quand je me dis « Un, t'as un trop gros cul » ou « Un, t'as vraiment les seins qui pendent ». J'ai une petite voix qui fait « I am what I am, I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
J'ai eu mon premier enfant, Victor, et avec mon mari, on a décidé de ne pas baptiser cet enfant et de l'annoncer à la famille et de sortir de cette norme. Cette famille, non, pas tellement pratiquante, mais très dans la norme, rurale, on fait attention à ce que les autres vont dire. Et ma grand-mère me dit, mais s'il lui arrive quelque chose à cet enfant, il ne pourra pas être enterré comme il se doit. Ils ont essayé de m'influencer pour le baptiser. Et donc on a fait ce choix, on a tenu bon. Et il y a la semaine dernière, nos enfants nous ont remercié de ne pas les avoir baptisés. On a eu une grande conversation en famille, comme quoi ils assumaient complètement ce choix, qu'ils étaient fiers de ça, enfin qu'ils étaient complètement en accord avec ça. Donc vraiment une émancipation très très forte par rapport à la norme et à la famille. Et puis maintenant qu'on a le retour de nos ados, parce que j'ai aussi une fille qui a 15 ans. Je me dis que j'ai fait le bon choix, mais pas facile à porter en 2003, dans une famille bien normée.
Je me souviens, 2008, crise financière. Donc ça, c'est du...
Grande histoire.
Grande histoire. Les Man Brothers, les gens qui partent avec leur valise de leur bureau à New York, qui se dit « Oup, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Grosse frayeur dans tous les foyers, enfin dans le mien en tout cas à l'époque. Ah, comment on va faire pour survivre ? Vivre et survivre. Donc là, ça a été une grosse remise en question familiale. Je me rappelle, tout le monde était vraiment touché par ça. Les enfants, je ne sais plus trop quel âge ils avaient. Et donc là, on se dit, waouh, comment on va faire demain ? Et donc là, il y a une prise de conscience à la fois, j'allais dire existentielle, mais aussi, oui, émancipatrice du coup... qu'est-ce qu'on peut chacun de nous faire ? Donc oui, on va faire notre lessive nous-mêmes, avec de la cendre, avec du bicarbonate, machin, voilà. Déjà, on ne va plus acheter de lessive. On va enlever la voiture, on va tous rouler en vélo. Toute la famille, on vend la voiture. Enfin, nous, on ne la vend pas parce qu'elle a eu un accident entre-temps, mais du coup, c'était dans l'énergie quand même. On se retrouve tous à avoir des vélos. Et plein de vélos, on habite à Colmar, tout est plat, facile pour les enfants, circuler, tout ça. vélo. Ah oui, mais alors l'électricité, oui, il faut quand même prendre quelque chose d'un petit peu écolo, mais qui va jusqu'au bout. Donc on s'abonne à Enercop. Ensuite, on regarde. Donc comme ça, on revisite les banques. Ah ouais, il faut sortir tout notre argent des banques. Donc on sort l'argent des banques. Bon, il faut toujours un peu, voilà, quand même en avoir, on ne sait jamais. Et donc il y a tout le travail. Oui, qu'est-ce qu'on va travailler ? En fait, beaucoup moins finalement, parce qu'on n'a pas besoin de travailler autant, puisqu'on a besoin de moins pour faire la lessive. Enfin voilà, c'est tout un processus familial qu'on vit comme ça très très fort pendant toute cette année, où c'est Sarkozy, je crois, qui était... Voilà, et donc on sentait bien que c'était... on ne savait pas trop comment ça allait finir, quoi, surtout, toi, par quel... et voilà, et ça, mais ça a été très... c'était un déclic familial, individuel, social, de comment on repense la vie en général. Sur, bon, ah oui, on chauffe au bois, du coup, mais j'ai un poêle, une cheminée, donc voilà, plein de trucs comme ça qui ont fait que, voilà, ça... Ça a bien, bien remis en question plein de choses. Donc, c'est très émancipateur, je pense, pour les enfants, c'était chouette. Donc, c'est 2008.
Et vous faites toujours votre lessive à la cendre et au...
Non.
Il y a mille limites. La première qui me vient, c'est ouais, quand les gens prennent deux jours, on peut les faire réfléchir et les faire bouger. N'empêche que quand on repart, on sait qu'ils se refont happer par la réalité. La réalité qui est du burn-out, du surtravail, des tensions entre collègues, l'absence de communication, de la hiérarchie et surtout de la méthodologie de projet où des financeurs leur imposent des rythmes complètement dingues. Et qu'en fait, pour accompagner un collectif à du changement, à se poser des questions et puis à prendre le temps, tu vois, de banaliser vraiment les espaces pour qu'ils puissent collectivement prendre le temps de changer leurs pratiques dans le fond, dans la durée, comme ils le souhaiteraient, il faudrait qu'on passe des mois. La seconde qui me vient, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que nous, on vient travailler nos grilles d'analyse, qui sont celles qu'on a là, comme ça, et que du coup, il y a plein d'endroits où nos propositions qui visent à l'émancipation vont être absolument incomplètes. Enfin, tout ça pour dire que sur des questions de racisme, on est mauvais parce qu'on est blanc et que on a beau réfléchir, enfin en tout cas, enfin voilà, sur des questions de handicap, on a beau se former, enfin il y a plein d'endroits, on n'est juste pas concerné, on sera jamais bon. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on y réfléchisse, mais en tout cas, on sera de toute façon moins percutant.
Céline, Victor, Jérémy, Johanny, Stéphanie, Angéline et Patrick que nous avons entendus dans cet épisode 0 du podcast Récits d'émancipation, produit et réalisé par Ada Wojtowicz, avec le soutien de Audrey Miller, Noémie Wojtowicz, Marisol Grenier et Florentina Gonzalez. Le générique a été composé par Komiku, dont le travail se trouve sur le Bandcamp Chez Mon Plaisir. Et le reste de la bande-son était composé dans l'ordre de Cobra, Il y a des lieux, Sarah Hébé,
El Movimiento Social, El DCO, et évidemment Gloria Gaynor. Si vous souhaitez suivre les prochains épisodes de ce podcast, vous pouvez vous abonner à la newsletter de La Braise sur leur site internet ou en vous abonnant via votre application de podcast préférée grâce au lien fourni dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi nous contacter si vous souhaitez participer à l'élaboration de futurs épisodes ou nous envoyer vos retours. Merci en tout cas pour votre écoute et à bientôt !